Stéphanie Delphine, bonjour, ravie de vous recevoir dans le cadre du podcast de Flore et Jeanne.
Merci Flore.
Oui, bonjour Flore, merci.
Alors nous, comment on s'est connus? Parce qu'on est voisines.
Tout à fait, c'est ça.
Donc nous, on est installés en face de chez vous pour animer des ateliers pour enfants et on voit votre magnifique vaisselle en location, on vous voit préparer les colis, on voit votre showroom, donc je vais vous laisser le micro pour que vous puissiez nous expliquer vos prestations. Le micro est à vous.
Merci. Alors, donc moi, c'est Delphine, je laisserai après Stéphanie se présenter. Donc nous, c'est une vieille histoire, Stéphanie et moi, puisqu'on s'est connus en 2009, voilà, et on est en 2024, et puisqu'on travaillait respectivement dans les locaux dans lesquels aujourd'hui on partage un local, un showroom. Donc Stéphanie, elle était au pôle créa, mais elle en dira plus après, et moi j'étais responsable du pôle merchandising. Donc nous, on a un parcours.
Et est-ce qu'on peut savoir de quelle société il s'agit?
Oui, bien sûr. Donc, on travaillait pour la marque DDP. Donc, on était respectivement sur chacune un pôle chez DDP, qui est une marque de prêt-à-porter et qui était à ce moment-là une marque de prêt-à-porter féminine. Voilà, on a travaillé toutes les deux jusqu'en 2014 pour la marque. Et puis ensuite, on s'est lancé follement dans l'activité d'entrepreneuriat. Et puis en 2020, on a créé Bontemps Fabrique à Rêverie, donc qui est une société spécialisée dans les arts de la table, la location et la prestation scénographique de la table. Voilà, et nous sommes donc des chineuses et collectionneuses légèrement compulsives. Voilà, avec une collection qui s'étend, je pense, près de 18 000 pièces à peu près. On devrait être pas loin de ça.
Et moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi la vaisselle ?
Alors, pourquoi déjà ? Parce que je pense que toutes les deux, on aime recevoir. On aime recevoir des gens autour de notre table. Le bon manger, parce que ça, c'est important, c'est un moment convivial. Je pense qu'on a ça dans le sang depuis qu'on est petite, hein, parce que nos parents, grands-parents aimaient recevoir la famille, les amis, etc. Que derrière ça, je pense qu'on a eu un déclic toutes les deux. Donc, comme l'a dit Delphine, on a travaillé ensemble, effectivement, chez DDP. Donc, moi, j'ai été sur le service création, notamment. J'étais au début, elle était à la fin. C'est pour ça qu'on fonctionne un peu comme des sœurs jumelles inversées. Je pense que chacune à un moment dans notre sur notre chemin de vie, il s'est passé un petit déclic quand on a eu nos enfants, respectivement. Cette envie finalement de passer à autre chose, de vivre un peu différemment, de se recentrer un petit peu sur nos valeurs personnelles, qui étaient du coup et qui sont la famille et le recevoir. Plus en accord aussi avec ces valeurs de recyclage, d'histoire en fait, cette histoire qu'on a envie de faire vivre et revivre. Et ça nous a paru évident, la table, les arts de la table, parce que respectivement et pour le baptême et pour le mariage, on a chiné notre propre vaisselle. Chiner notre pauvre vaisselle, j'avais pris la vaisselle de ma mamie, la vaisselle de ma maman, j'ai chiné un service personnel et du coup tout mélangé, ça racontait une histoire, ça racontait finalement un peu nos origines. Donc ce qui était intéressant, du coup on a commencé notre stock comme ça, avec notre histoire personnelle.
La vaisselle, vous la trouvez où ?
Alors, partout. C'est souvent une question qu'on nous pose. C'est pas une question où on a des tabous, mais vraiment partout et partout sur le territoire français. Donc, on travaille avec des gens qui sont aussi des brocanteurs, etc. Mais on trouve partout. Donc, ça peut aller du particulier à des professionnels. Ça passe par des sites bien connus, hein, que tout le monde utilise au quotidien, des Vinted, Le Bon Coin, etc. Et après, aujourd'hui, je crois que c'est une vraie force chez nous. On s'est vraiment créé un réseau de gens avec lesquels on collabore, qui connaissent ce que l'on cherche, ce qu'on aime. Et après, on a aussi beaucoup de chance, c'est qu'on a beaucoup travaillé nos relations sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a beaucoup de particuliers qui nous sollicitent et qui sont plutôt ravis que leur pièce d'histoire de famille arrive chez nous et qu'on puisse leur donner une nouvelle vie avec de nouvelles histoires, etc.
Et alors, quand vous allez chez un particulier pour récupérer de la vaisselle, parce que une maison se vide, vous privilégiez quel système ? Vous prenez tout le service ou vous prenez juste quelques assiettes, quelques verres ?
Non, l'idée, c'est de ne pas justement désolidariser l'ensemble. On achète des services entiers parce que justement, on a à cœur à faire revivre cet ensemble et à le mixer à d'autres. Parce que le fil conducteur, je pense qu'on l'aura compris, c'est de raconter des histoires, de belles histoires, assez poétiques. Et du coup, pour ça, on garde l'ensemble. Après, ça ne veut pas dire qu'on loue systématiquement le même service, ou en tout cas le service entier à une seule et même personne, une seule et même famille. On va le mixer, mais en tout cas, il reste à la maison en entier chez nous. Et du coup, c'est aussi pour ça, je pense, que les gens nous contactent et sont finalement contents, parce que c'est un peu comme un dépôt meuble, sauf que c'est un dépôt vaisselle. Et du coup, ils savent que le service, il est là, il est à la maison, et c'est pas quelque chose qui va être éclaté, qui va partir dans tous les sens, à droite, à gauche. Donc, je pense qu'il y a aussi cette histoire un peu de confiance.
Et l'histoire de Bontemps, c'est aussi l'histoire de femmes qui ont plus de 20 ans d'expérience mode derrière elles. Et du coup, nous, on fonctionne vraiment avec des collections et on travaille finalement comme on aurait pu travailler avec des collections de prêt-à-porter. Là, c'est des collections de vaisselle. Donc, on a recréé des collections. On retravaille ce qu'on appelle du mix and match dans un jargon un peu pointu de mode. Et du coup, c'est aussi ça qui crée, je pense, une ambiance différenciante d'un service intégral. C'est le fait qu'on remixe des pièces, qu'on recrée des collections et puis qu'on puisse raconter de nouvelles histoires sur les moments de la table.
Alors, pour la vaisselle, c'est plutôt de la porcelaine, du grès. C'est quoi les matériaux que vous privilégiez ?
Alors, nous, notre grand dada, ça reste quand même la vaisselle très ancienne qui est du terre de fer. C'était avant justement l'invention de la porcelaine, mais oui, porcelaine, oui, du grès. En fait, on va aller jusqu'aux années 70, 60-70, parce que dans l'art de la table, qui est lié aux arts décoratifs, il y a forcément des courants. Avec des visuels qui vont être différents, des matériaux qui vont être différents, des coloris qui seront différents. Et l'idée aussi au travers de ça, c'est de pouvoir toucher les gens sur ce qui les fait vibrer. C'est-à-dire que quand on reçoit des couples, ils ont forcément une idée du mariage parfait. Et une idée de l'émotion qu'ils ont envie de transmettre à leurs invités et qu'ils ont envie de recevoir aussi, parce que ça, c'est important. Et cette émotion, en fonction des gens, elle va passer ou par des couleurs, ou par des matériaux, par des sons. Et c'est pour ça que nous, on travaille sur aussi différents matériaux comme l'argenterie. Alors bien sûr, on a de l'inox, des anciennes ménagères en inox, etc. Mais le verre, le cristal, pourquoi ? Parce que ça résonne différemment. Et du coup, tous ces sons, toutes ces couleurs, etc., vont parler finalement à chaque invité de manière différente. Et on va avoir, on espère en tout cas, toucher chaque personne et se faire, essayer de trouver cette madeleine de Proust qui peut y avoir un peu en chacun. C'est ce ressouvenir, cette sorte de réminiscence en fait qu'on essaie de trouver pour chaque couple qu'on peut accompagner.
Donc la vaisselle, c'est principalement loué pour des mariages ou il y a d'autres événements où on fait appel à à vos services?
Alors, le mariage, c'est très saisonnier. Non, non, nous, on touche vraiment. Alors, ça fait partie d'une des grosses parties de notre activité sur la saison estivale, qui est la saison des mariages. Après, il y a aussi des changements sur la saisonnalité des mariages. On voit maintenant que ça s'étend beaucoup plus dans l'année, hein. On a eu des mariages là d'hiver, en décembre, etc. Donc, ça, c'est super pour nous parce qu'on a aussi des collections qui s'adaptent sur des moments plus automnales, etc. Et après, non, non, pas du tout. En fait, chez Bontemps, on a une vraie philosophie sur la manière dont on fonctionne et en particulier avec nos clients. On est vraiment sur 100% de satisfaction clientèle. Et du coup, chez Bontemps, il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de gros clients, ils sont tous traités de la même manière. Vous voulez faire un repas en amoureux, vous pouvez louer chez nous. Vous voulez faire un repas hyper grand, vous pouvez louer chez nous. Donc anniversaire, mariage, baptême, repas entre amis, moment de Noël, séminaire. On travaille aussi avec des professionnels, ce qui nous a valu quelques voyages. en dehors de la France aussi. Donc ça, c'est, voilà, c'est des choses qu'on fait. C'est vraiment, voilà, c'est un client ou un couple ou un client, une histoire, une sélection. Et ça, on s'y attache aussi vraiment. C'est vraiment d'aller travailler en profondeur et en sur-mesure avec nos clients pour que ça corresponde à leurs aspirations et à leurs envies.
Et alors, pour faire appel à vos services, vous vous limitez à la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine, vous livrez en France, en Europe?
Alors, pour ce qui est de la location, de manière générale, en fait, quand on travaille loin, on va livrer bien souvent. Et bien souvent, en fait, quand les gens nous sollicitent et qu'ils sont loin du point de notre showroom, hein, de Bègles, du coup, c'est qu'ils ont une vraie attachement à Bontemps et au travail qu'on fait derrière. Donc, du coup, ils nous sollicitent aussi pour la mise en place de la décoration, de la table, etc. Donc, du coup, ces fameux petits voyages où on va livrer. Et pour ce qui est de la casse, alors forcément, on ne va pas dire que ça n'arrive jamais, hein, ça arrive. Derrière, on fait un point d'honneur à recycler, du coup, cette vaisselle cassée, hein, parce qu'elle peut encore raconter plein de jolies choses de manière différente. Alors, on travaille notamment avec une artiste plasticienne qui était également dans nos locaux jusqu'à pas il y a pas très très longtemps, hein, qui va retravailler le verre, parce que le verre, le cristal, elle le fait fondre, elle refait des œuvres derrière qu'elle expose. Tout ce qui est porcelaine, terre de fer, c'est pareil, elle retravaille avec, parce qu'elle donne des cours dans des écoles de design, et du coup les élèves vont retravailler avec ça et le faire revivre. Et après, nous, ça nous arrive aussi de pouvoir recycler des parties d'assiettes qui vont être cassées pour d'éventuels cadeaux clients, parce qu'on les aura relookés différemment. Et des fois, ça nous arrive de faire des dons aussi à des gens qui nous sollicitent pour travailler de la mosaïque, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui se casse est recyclé. Il y a forcément une seconde vie derrière, parce que ça fait partie justement de nos valeurs.
Qui donc, est parfois une dixième vie, certainement.
Oui, hein. Oui, tout à fait.
Une quinzième. Nos pièces sont des chats.
Oui, ça s'arrête à sept. Ouais.
Alors, avec les années qui passent, on a des goûts qui changent, les tendances évoluent. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez les mêmes collections qu'au départ et vous ajoutez de la nouvelle vaisselle, ou est-ce que vous enlevez certaines collections pour les remplacer par de nouvelles?
Non. Alors, je crois que ça c'est la question. C'est la question qui ne crée pas de débat, attention, parce que c'est très drôle. C'est aussi l'avantage d'être à deux, avec parfois des goûts différents. Je crois qu'on est absolument unanime toutes les deux sur tout ce qui concerne la terre de fer, donc qui sont des pièces qui sont de la fin du 19e siècle.
Et une question, terre de fer, c'est quoi?
C'est finalement un mélange de matière avec de la céramique qui crée cette estampille, en fait, cette matière de terre de fer. C'est vraiment une matière particulière qui existait au 19e siècle. C'est un mélange, en fait. Pour les métaux, on appellerait ça un alliage. On ne peut pas utiliser l'alliage sur la terre de fer. C'est un mélange, en fait, de matériaux qui va créer une matière qui s'appelle la terre de fer.
Et aujourd'hui, ça n'existe plus, cette terre de fer ?
Non, il y a eu des évolutions, il y a eu la terre de fer, il y a quelques pièces qui ont existé en terre de feu, et ensuite on a basculé sur les porcelaines, et puis là c'est pareil, il y a des différences, il y a de la porcelaine fine, la porcelaine opaque, etc., etc.
Donc je t'ai coupé, est-ce que tu peux reprendre ?
Donc oui, je pense qu'on est unanime toutes les deux, on a vraiment une appétence particulière sur les pièces dites de terre de fer parce que très anciennes, parce que des motifs peints à la main, finalement sur un même service on va avoir des motifs qui vont être différents, etc. Donc ça c'est un non-sujet, voilà, on aime toutes les deux. Sur les porcelaines qui datent des années, on va dire 40, 50, on est plutôt unanime toutes les deux. Et après, on a quelques différences. Et c'est ça qui crée aussi un certain nombre de collections chez Bontemps. C'est que moi, j'ai beaucoup d'affinités pour vraiment la vaisselle qu'on qualifie, nous, de rétro dans nos collections, qui est vraiment la vaisselle des années 60. C'est le souvenir, c'est la Madeleine de Proust du poulet rôti du dimanche chez papy et mamie, avec les petits pois frais. Stéphanie aura plus d'appétence sur la barbotine, qui est une vaisselle ancienne hyper chargée. Donc pour donner une image, c'est l'équivalent des feuilles de chou. Voilà, très chargée. Et finalement, je crois que c'est ça qui fonctionne aussi, parce que dans les motifs, dans les couleurs qu'on va aller chiner, chercher toutes les deux, on n'aimera pas forcément les mêmes pièces. Mais remises ensemble, ça crée des compositions qui peuvent répondre à un maximum, en fait, de futurs clients à nous. Donc voilà, chacune a sa touche. C'est un peu, je reviens sur la mode, mais c'est un peu comme le style. Tout le monde n'a pas le même style, heureusement. Tout le monde n'a pas les mêmes appétences, les mêmes goûts. Et du coup, c'est la complémentarité qui fait qu'on a un large choix et qu'on peut répondre à plein de demandes.
Et pour compléter, c'est effectivement, comme tu le disais, comme la mode. C'est-à-dire que la mode, quand on regarde, il y a des codes qui sont là et qu'on réutilise. C'était les années 70, il y a eu fameuse mode des pantalons pattes d'ef, des flares, la couleur cognac qui était à la mode.
Le col pelé à tarte.
Ah oui, le col pelé à la tarte. Excuse-moi, j'avais oublié celui-là. Je crois que j'avais envie de m'en débarrasser, mais... Le col perle la tarte, effectivement, le daim. Donc, il y a des codes qui sont là, qui sont dans l'inconscient collectif. Et aujourd'hui, on le voit dans les collections, on a un retour sur les années 70. C'est remixé légèrement différemment, en fait, pour justement être rendu plus contemporain. Et puis parce que aujourd'hui, on a aussi envie de nouvelles choses. Sur la vaisselle, c'est le même principe. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a, c'est finalement tous les codes qui sont ancrés dans l'inconscient collectif. Et en fonction des tendances et des envies, on va les remixer différemment. On va remixer différemment les couleurs. C'est-à-dire, il y a peut-être 2 ans, on n'aurait jamais mélangé le vert et le marron. Voilà. Aujourd'hui, on le fait parce que justement, c'est dans l'actualité. Ça va être la même chose pour les matières. On peut mixer les choses différemment et du coup... on aura cette ressensation de neuf et de tendance qui va revenir et qui touchera différemment les gens. Et pour nous, des choses finalement, donc on est accrochés chacune effectivement à des collections en particulier, ou en tout cas à des époques en particulier, mais nos goûts évoluent aussi. Hein. Donc vous voyez, des choses au départ, je n'aimais pas forcément. Je ne désespère pas qu'un jour Delphine aime la barbotine. Ça, c'est un côté, c'est trop précurseur.
Ça doit être ça. Ce qui n'empêche que j'en chine quand même. Beaucoup.
Tout à fait, ben oui, tout à fait. Mais des fois, on ne peut pas aller trop loin. Mais du coup, comme nos goûts évoluent aussi, si ça passe dans une main ou dans l'autre, on va le travailler différemment. Et ça va amener de la nouveauté. Parce que aussi on a des caractères qui sont différents, plus rock, plus poétique, donc on va transmettre des messages qui seront différents, émotionnellement parlant.
Et
Moi, j'ai une question. En tant que cliente, si je suis plutôt attirée vers de la vaisselle barbotine, c'est toi, Stéphanie, qui va t'occuper de moi ou Delphine t'accompagne? Ça se passe comment?
Non. Alors, de manière générale, on a finalement des missions qui sont assez bien distinctes l'une de l'autre chez Bontemps, qui se sont assez naturellement opérées. Pour autant, c'est pas parce que moi j'ai pas d'accroche particulière avec la barbotine ou Steph moins avec le rétro qu'on n'est pas capable de le travailler, le mixer. Dans la majeure partie du temps, on essaye de recevoir nos clients vraiment à deux. Pas pour avoir une emprise hein, sur les clients, mais parce que je pense que ça nous permet de ne rien oublier, d'essayer voilà, d'être en accord, et puis on a besoin de noter des choses, tout ça, voilà, de faire des tests. Non, non, moi je suis capable de faire des tables avec de la barbotine, c'est pas un souci, et Steph, elle est capable de faire des tables avec du rétro, non, on est capable de mixer. Par contre, c'est vrai que dans le quotidien, on a des missions. Tout ce qui est composition, de manière générale, on le fait ensemble. Voilà. Des fois, on tente des choses aussi en disant ah si moi ça j'y crois. Voilà. Bon bah ok, on y va. T'y crois. Voilà. On se fait confiance aussi, c'est important. Je crois que ça peut pas fonctionner comme ça dans une association s'il n'y a pas de confiance. Et après, voilà, on a chacune nos missions. Steph, elle gère par exemple beaucoup les réseaux sociaux, l'image. Voilà, l'image. Moi, je vais plus être sur. Ça colle aussi à nos caractères et nos métiers précédents. Hein. Moi, je vais plus être sur des parties back-office. Où je vais beaucoup gérer, on va dire, on va appeler ça la relation commerciale, parce qu'il en faut une. Voilà, donc tout ce qui est back-office. Et voilà, et ça s'équilibre comme ça, mais il y a vraiment des choses auxquelles on tient à le faire ensemble.
Ouais, donc là, c'est plutôt rigolo. Vous fonctionnez de la même façon que moi et Aurélie. Moi, Delphine, on a les mêmes rôles et Aurélie tient le même rôle que Stéphanie. C'est vrai que moi, il y a des choses qui me semblent compliquées ou qui me rebutent et Aurélie, de façon instinctive, va s'en occuper et vice-versa. Donc, c'est très rigolo de voir un autre duo qui fonctionne de la même façon que nous, avec une répartition tout à fait naturelle sans avoir besoin de parler.
Ouais, voilà.
Oui, c'est ça. Et je pense que. Nous, ça fonctionne parce qu'on est très complémentaires en fait. Et du coup, la question se pose même pas, même là. Donc, du coup, on est en train de déménager, toujours dans le même lieu, hein, un beau lieu, mais on change de local. Et bah, du coup, finalement, sans se parler, on s'est organisé de manière naturelle. Il y en a une qui vide, il y en a une qui range, voilà. Et c'est comme ça dans notre quotidien. On se marche pas du tout sur les pattes. Bon, des fois, après, on fait un peu comme les vieux couples, hein, quand même. On a des sujets qui nous chatouillent. Mais ça, c'est plutôt drôle. Hein, ça a mis du pigment.
Le même mode de fonctionnement, nous c'est pareil, sans se parler. Quand on a emménagé ici, il y en a une qui a pris telle tâche, l'autre telle autre, et on n'a même pas eu besoin d'en discuter, quoi.
Non, mais je crois que ça, c'est en fait une association, elle ne peut bien fonctionner que s'il y a de la confiance. Voilà, il faut se faire confiance, et franchement, nous on se fait confiance à 100%. Et après, effectivement, s'il y a de la complémentarité, si on a toutes les deux le même cheval de bataille, ça pose un problème à un moment. Et puis voilà, on a cette appétence à vouloir grandir ensemble, à laisser du temps aussi pour bon temps, ben voilà, que ça prenne, etc. Oui, des fois, il y a des sujets, mais on le dit hyper souvent qu'on est un vieux couple, voilà, mais en même temps, on se connaît aussi très bien. On voilà, c'est oui, des fois on n'est pas d'accord, hein. Mais ça marche comme ça aussi dans les couples, mais ça fait partie de la discussion.
C'est ce qui fait avancer.
Ouais, c'est ce qui fait avancer. Et puis il y a des choses où on arrive à en rigoler parce que des fois on sait que c'est un sujet qui va plus ou moins titiller l'autre, et donc on a des petits codes. Ne dis pas non tout de suite, réfléchis-y.
Je te l'avais dit.
Voilà, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, hein.
Je te l'avais dit.
Ouais, voilà. Donc, mais ça fonctionne comme ça, en fait. C'est naturel. Voilà. Et tant que c'est naturel, bah, il ne faut pas y toucher. Hein.
Et même pour les clients, le fait de les recevoir ensemble, en fait, c'est aussi une sécurité pour eux, dans le sens où, finalement, comme on a des compétences qui sont différentes, moi, je vais essayer de trouver un peu. comment dire, le décrypter ce qu'il recherche. Et Delphine, elle va être le cadre de jeu, c'est-à-dire qu'elle va faire en sorte qu'on déborde pas, parce que c'est important derrière. Donc du coup, pour eux, je pense que c'est bien parce qu'ils ont les réponses esthétiques et financières qu'ils viennent rechercher, parce que bah forcément, quand on fait un événement, il y a aussi un budget, une enveloppe qui est derrière, qui n'est pas extensible. Et ça, c'est important d'en tenir compte et de travailler à l'intérieur. Donc, le fait d'avoir les deux compétences, on peut arriver à travailler au mieux du mieux pour cette fameuse satisfaction client qui est très importante.
Donc, quand vous vous occupez d'art de la table, est-ce que vous vous, vous occupez que de la vaisselle, c'est-à-dire assiettes, verres, couverts, ou est-ce que vous prenez aussi en charge tout ce qui est nappage et décoration florale, par exemple ?
Alors, oui, on va vraiment travailler sur tout ce qui tourne sur la table et les arts de la table. Donc, effectivement, tout ce qui est le couvert classique que l'on connaît. Et on va travailler aussi sur les plats de service, des éléments de décoration, les couverts de service. Donc, ça va passer par, oui, des vases. Il nous arrive de faire de la mise en place aussi de petits bouquets de fleurs. On est très clair là-dessus. On n'est pas fleuriste, mais les gens qui viennent chercher chez nous de la prestation, c'est des gens souvent qui nous suivent et qui ont vraiment besoin de retrouver la patte bon temps parce que c'est ce sur quoi ils ont accroché. Donc, on va faire du chandelier, du bougeoir, de la petite déco de table, des vases. Après, on travaille aussi sur tout ce qui est buffet et décoration de buffet. Et on a aussi une vraie appétence à aller détourner les objets. Donc d'une verseuse, ben, on va en faire finalement des vases. On va détourner un nif pour faire des supports de tasses qui donnent un effet un peu waouh sur un buffet. Voilà, ça c'est aussi un peu notre patte à nous, c'est d'aller détourner des objets qui ont une fonctionnalité au départ et d'en recréer une nouvelle.
Et le nappage alors ?
Alors, en ce qui concerne le nappage, non, on a fait quelques essais et puis c'est un petit peu complexe. Pourquoi ? Parce que dans le linge ancien, on a des choses qui sont un peu hors normes par rapport aux tables d'aujourd'hui. On se retrouve souvent, bien sûr, avec des drains qui font 3 mètres de long, etc., qui ne sont pas forcément adaptés et qui sont bien souvent, on est sur du rectangulaire et pas du rond. Par contre, on fait de la serviette de table monogrammée ou damassé, donc ça reste du linge de maison ancien qui est intéressant. Et après, en ce qui concerne la décoration, on fait aussi du petit meuble qui peut recréer des ambiances pour des cérémonies laïques, par exemple, donc des fauteuils crapauds, de l'arche, où on a détourné un ancien portant, par exemple, en bois de vieux magasins, ce genre de choses, de la machine à écrire, ce genre de décoration. Et après, comme on a quand même qui nous titille le côté un peu créatif, hein, puisque ça c'est nos origines, en tout cas c'est notre naissance dans le monde du travail, hein. On peut créer du décor sur mesure au besoin, en fonction des clients, et pour ça on peut travailler avec des artistes qu'on côtoie, qui peuvent travailler du papier, du verre, etc., etc.
Et donc, pour le nappage, la solution, c'est quoi ? Directement sur la table ou
Alors, ça, oui. Aujourd'hui, dans les tendances, on a beaucoup de confrères et consoeurs qui font de la location de mobilier et qui louent de très jolies tables en bois. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Et on a aussi des confrères et des consoeurs qui ont la capacité à louer du linge de table, soit blanc, soit de couleur. Donc, généralement, nos clients, on les renvoie vers ces personnes qui sont vraiment spécialisées dans cet univers-là.
Donc là, on a parlé de tout ce qui était scénographie, art de la table, mais votre clientèle, elle arrive plutôt par quel moyen ? C'est le particulier qui s'adresse directement à vous ? Ou vous travaillez plutôt avec des wedding planners, des agences de communication ? Ça se passe comment ?
Alors, pour le coup, là, ça dépend vraiment. J'aurais pas de pourcentage à donner, mais peut-être qu'on est quasiment sur 50-50, puisqu'on a des weddings avec lesquels on a déjà l'habitude de travailler, qui nous connaissent, qui connaissent notre travail, etc., et qui nous recommandent. Voilà. Et on a aussi des particuliers qui viennent spontanément, directement vers nous. On a eu aussi le chemin inverse. On a eu des clients qui sont venus spontanément vers nous avec vraiment une appétence sur le travail qu'on fournit et qui finalement, au dernier moment, nous disaient, à force d'échanger avec eux, oh, « Est-ce que vous connaissez une wedding ?» Bon, voilà. Et en fonction de leur caractère, de comment ils fonctionnent, ben, on les a renvoyés vers une wedding avec laquelle on a déjà collaboré. On savait que ça allait fonctionner entre eux, parce que c'est aussi une histoire d'humain. En fait, un mariage, quand c'est un mariage, c'est aussi une histoire d'humain avec ben, voilà, des affinités, une vision du moment, du grand jour. Donc, ben, en fonction d'eux, on les renvoie vers des personnes qui sont en adéquation avec leur aspiration.
Il peut y avoir aussi les traiteurs parce qu'ils sont directement concernés par vos services.
Ouais, pour le coup, ça m'arrive souvent d'avoir des traiteurs au téléphone. Alors la raison, elle est simple, hein, souvent c'est moi qui les ai au téléphone, c'est que moi je viens d'une famille de restaurateurs. Hein. Ah. Donc il y a des termes, forcément, il y a un jargon particulier dans l'univers de la restauration. Avec lequel j'ai grandi. Donc, quand j'ai des traiteurs qui m'appellent et qui me disent « Ok, est-ce qu'on peut les mettre en étuve ?» Bon, oui, je sais de quoi on parle. Et oui, je vais leur dire « Vous pouvez le faire jusqu'à tant de degrés pour garder les pièces au chaud. » Donc, ça m'arrive très, très souvent d'avoir des traiteurs au téléphone pour coordonner les éléments. Et puis, eux, ils ont aussi un métier qui a une partie esthétique et artistique. Donc, il y a des dressages d'assiettes qui sont prévus. Ils ont parfois l'habitude de travailler dans certaines pièces d'un certain diamètre, etc. Donc nous, on fait en sorte de simplifier aussi la vie de tout le monde. Donc ok, il y a de l'esthétisme, mais il y a aussi ce qui va être il y a le contenant donc, que nous, on fournit, et il y a le contenu qui doit être à la hauteur de l'événement. Donc pour ça, on travaille aussi avec les traiteurs sur des dimensions, des profondeurs d'assiettes, par exemple, de plats, etc., etc.
Puis une assiette, la grosse différence, c'est entre le moment où elle est vide et ensuite quand elle est remplie.
Exactement.
Donc là, ça veut dire que pour un même repas, vous pouvez avoir une collection pour l'entrée, une collection pour le plat, une collection pour le dessert ?
Oui, tout à fait. On peut avoir donc des formes différentes et effectivement des motifs plus adaptés en fonction de ce qui va être servi. L'idée étant quand même, c'est que
il y ait
une harmonie et que bien sûr, nous, nos clients, ils mangent d'abord avec les yeux. Et que ce soit raccord derrière avec ce que va proposer effectivement le traiteur.
Alors imaginons que j'organise mon mariage, c'est la procédure, c'est quoi ? Bon, déjà je vous donne la date, je suppose qu'il vous faut un estimatif du nombre de couverts, aussi bien au niveau des enfants que des adultes. Il vous faut quoi d'autre comme élément ?
Alors, effectivement, on va échanger sur les collections, si vous avez déjà regardé quelle collection vous souhaitez. Et après, il y a deux chemins. On peut, soit vous avez déjà une idée parce que voilà, vous nous suivez, vous avez regardé le site, vous avez feuilleté le catalogue, c'est très clair. Ou alors, on prend un rendez-vous au showroom. Et là, du coup, on va commencer à travailler ensemble, à aller dresser une table témoin. Et nous, on part toujours du principe que lorsqu'on va travailler avec nos clients en premier devis, on va aller au plus haut possible. On va aller taper dans ce qui va être l'effet « waouh », le plus beau, on met le « must ». Et après, en fonction de cette fameuse histoire d'enveloppe et qui ne sont que des vases communicants, hein, quand on a un budget pour un mariage qui est établi, on va redescendre si c'est nécessaire, de manière à ce que ça reste vraiment avec les éléments qui sont les plus essentiels, les plus importants sur la table, et puis que ça colle à l'image, aux aspirations et au budget. Donc on fait souvent des allers-retours de devis. Voilà, des fois on a fait 2-3 rendez-vous avec les gens pour arriver à une finalité et que ce soit parfait pour eux.
Donc là, on a parlé un peu de votre scénographie, des collections que vous proposez, de la façon de s'y prendre quand on est client pour s'adresser à vous. Vous avez des objectifs pour les mois ou les années à venir peut-être?
Alors je crois que notre objectif, ce serait d'agrandir la famille et d'avoir le plaisir de recruter du monde parce que justement Bontemps prend de l'essor et qu'on ait besoin justement d'étoffer en nombre de bras. Ça va être très certainement le cas cet été. Mais de manière ponctuelle, voilà. Mais l'idée, ce serait de le faire de manière annuelle. Ça nous tient à cœur.
Depuis le départ.
C'est de faire grandir le projet d'une manière ou d'une autre. Alors on a plusieurs idées qui sont aujourd'hui encore un peu
au stade embryonnaire.
Mais l'idée effectivement c'est de grandir, c'est pas de devenir une multinationale, c'est pas ça, parce que l'humain restera au centre de nos préoccupations, mais c'est de le faire grandir parce que je crois que ce qu'on aime par-dessus tout c'est cette sorte de challenge qui fait que finalement on accompagne ce bébé pas à pas et qu'on l'étoffe, on lui voilà on...
Ouais, en fait je crois que nos parcours respectifs, alors on n'a pas parlé au départ, mais nos études etc. Moi par exemple j'ai fait les compagnons du devoir du Tour de France.
Ah ouais.
Voilà, donc à la base je suis tapissier d'ameublement décorateur. Je suis spécialisée dans le 18e et dans l'art déco. Donc voilà, et je crois qu'il y a vraiment une notion chez nous qui est importante, mais ce qu'on fait aussi encore en parallèle, puisqu'on ne l'a pas dit, mais on donne des cours dans des écoles, je crois qu'il y a une vraie appétence à la transmission, à la pédagogie, à faire grandir des gens, à les monter en compétences, etc. Et ça, on l'a fait dans nos métiers d'avant. On a cette éducation. Et du coup, c'est vrai que je crois qu'on a envie, et dès le départ du projet, on avait envie de pouvoir avoir la chance de créer de l'emploi et de former des gens, de les accompagner, de les monter en compétences, et puis qu'un jour, probablement, et c'est ce qu'on souhaite, que les oisillons quittent le nid pour eux-mêmes avoir envie peut-être de faire autre chose ou de monter une entreprise. Mais en tout cas, on a une vraie envie de mobiliser des compétences et de former des gens pour leur donner une nouvelle chance dans la vie, en fait.
Donc là, la vaisselle, vous la louez pour dresser une table, mais je suppose qu'il arrive qu'elle soit cassée. Donc tout à l'heure, vous nous parliez que vous la donniez aussi à des artistes pour qu'ils la recyclent. Est-ce que vous, de votre côté, vous n'avez pas pensé à proposer des ateliers mosaïques avec ces morceaux de vaisselle cassée? Parce que moi, perso, je sais que je me suis fait un super miroir pour ma salle de bain il y a plus de 20 ans avec des assiettes ébréchées récupérées chez Emmaüs. Et je l'ai encore. Et tous les matins, je me brosse les cheveux devant mon miroir. Et je trouve ça vraiment très, très sympa à réaliser.
Alors, dans ce domaine-là... on va dire pas forcément, parce que justement, comme on donne des cours, on fait, en tout cas pour ma part, des ateliers déjà créatifs avec les élèves, qui restent liés au textile, cette première passion. Parce que quand on est créatif, on a beaucoup de passion. Hein. Des fois, elles prennent aussi beaucoup de place à la maison, beaucoup de place ici. Sur la vaisselle, non. Par contre, sur les idées de comment la recycler tout le temps, ça nous anime constamment. On y réfléchit de manière assez récurrente pour se dire, ça, finalement, on pourrait en faire ça, etc., etc. Pour tout simplement continuer en fait et ne jamais jeter. On reste sur cette ligne droite.
Après, il y a un facteur qui est le temps. le temps n'est pas extensible. Le temps n'est pas extensible. Et alors, la recherche, la créativité, ça ne vient pas. L'idée de génie n'arrive pas comme ça soudainement. C'est beaucoup de travail, en fait. Donc, on va prioriser, on va mettre les choses bien dans l'ordre. Priorité dans un premier temps au service client, à la location, la scénographie, ce qu'on peut proposer. Continuer à se faire connaître. Donc, ça, c'est important aussi pour nous.
C'est essentiellement pour les réseaux sociaux ?
Oui, quand même. Ouais. Réseaux sociaux et relationnels et bouche à oreille. Ça, c'est un élément sur lequel aujourd'hui... Voilà, on ne peut pas passer hein, à côté en tout cas. Et donc, développer d'autres choses, ça, des idées, on n'en manque pas. C'est le temps qui n'est pas extensible, mais ça viendra. Donc, quand on aura la possibilité d'avoir aussi des gens qui nous accompagnent. On croise les doigts.
Ça va se faire.
On y croit. En tout cas, nous, on y croit.
Oui, on y croit. L'envie, elle est là. À partir du moment où il y a l'envie et le travail. Voilà, parce que je pense qu'on travaille beaucoup et qu'on s'attache à ça. Donc, du coup, à un moment, ça va arriver. Et puis, il vaut mieux voir toujours le verre à moitié plein, excusez-moi, qu'à moitié vide. Alors, je dis ça, pas parce que je suis en train de boire un verre, parce qu'il est un peu trop tôt, mais parce que je fais partie des gens très, très positifs. Et du coup, pour moi, oui, c'est réalisable. En fait, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de sujet en fait sur ça.
D'ailleurs, en parlant de verre, vous avez une préférence plutôt pour les verres, les assiettes ou les couverts ?
Alors, et mon cœur chavire quand même sur de l'assiette. Très clairement, en fait, je pense que c'est quand on trouve une pépite, on a quand même le cœur qui vibre. Donc ça, c'est bien. Après, cependant, on est quand même tombé sur des lots de verres absolument fabuleux, hein, du cristal de Saint-Louis, où là, c'est juste merveilleux, en fait. C'est extrêmement bien travaillé. Il y a une multitude de petits détails. Et puis surtout, quand vous portez le verre à la bouche, c'est presque comme s'il n'y avait plus rien entre ce que vous êtes en train de boire et vous. Donc, c'est quelque chose qui met en valeur vraiment la boisson que l'on peut déguster. Et donc oui, puis l'argenterie aussi, parce qu'au travers des dessins qu'on peut trouver, des motifs, en fait, des voluptes que les manches peuvent avoir, etc., ça reste... Voilà, le problème, c'est ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on est passionné. Et le problème, c'est que on est passionné par beaucoup de choses. Et que du coup, je crois que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Sur une table, l'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible.
Alors moi, j'ai une question, peut-être qu'il va vous paraître idiote et puis on la sortira du podcast si ça n'intéresse personne, mais personnellement, je ne supporte pas la vaisselle ébréchée et c'est vrai que quand je vais chez quelqu'un ou dans des Airbnb, puisque ça se développe énormément quand même et qu'on ouvre les portes de placard et qu'on voit des bols ou des assiettes ébréchées, vraiment, ça m'insupporte et moi, chez moi, je sais que dès qu'une assiette a le moindre petit pet, fêlé ou quoi que ce soit, ça sort de la circulation. Vous en pensez quoi, vous ?
Alors,
c'est le moment où on parle des cordonniers les plus mal chaussés.
Voilà, c'est exact. J'allais en fait introduire cette réponse comme ça. Ce sont donc les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, moi, effectivement, en ce qui me concerne, si c'est des pièces du géant suédois qui sont ébréchées, ça n'est pas possible. Non mais, voilà, ça n'est pas possible. C'est de la vaisselle d'entrée de gamme, ça coûte pas très cher d'avoir des choses propres et nickel. Sur des pièces comme nous, on les travaille chez Bontemps. Alors évidemment, on est attentive, hein, on fait attention quand on chine. Et puis alors d'ailleurs, plus le temps passe, plus on est exigeante sur la qualité des pièces que l'on prend. Pour autant, quand vous avez des pièces qui datent du 19e siècle, effectivement, elles ont rencontré quelques placards, elles ont traîné dans quelques cuisines, elles sont passées dans quelques mains, et donc il peut arriver qu'il y ait une petite ébréchure, qu'il y ait quelques rousseurs sur les fonds de l'assiette. Donc ça, pour nous, c'est pas forcément un énorme souci. Voilà, sur des porcelaines qui sont des porcelaines beaucoup plus fragiles, bon, voilà, on est très vigilante. En tout cas, sur ce qui concerne Bontemps à proprement parler, on sera hyper vigilante. Chez nous, je crois que c'est vraiment pas du tout un exemple. Mais il y a des pièces auxquelles on est attaché aussi à titre perso chez nous. Et donc, on a du mal à les céder.
En fait, c'est là où je voulais rebondir. Effectivement, sur Bontemps, ça non, en fait. C'est effectivement, on ne met pas à la location des pièces qui sont ébréchées ou fêlées. Par contre, chez nous, parce qu'on est attaché aux pièces, effectivement, il va y avoir des choses qui vont être là. Des fois, peut-être qu'effectivement, les gens vont se poser la question de... moi, par exemple, chez moi, j'ai deux soupières que je trouve absolument magnifiques, mais magnifiques parce que mon cœur les trouve magnifiques, parce qu'elles étaient à ma grand-mère. Et ça, je ne peux pas m'en séparer. J'ai un plat à pain qui est absolument formidable. C'est un énorme plat à passe-poisson ovale, couleur brun de cassel, où il y a un énorme pet dessus. Mais c'est pareil, je ne peux pas m'en séparer, parce que c'était un cadeau, parce que derrière, il y a une histoire de Chine où on avait dû faire un peu de spéléo, hein, parce que ça nous arrive aussi. Elle ne l'a pas évoqué tout à l'heure, hein, mais quand on fait de la Chine, des fois, on se retrouve dans des endroits, effectivement, où on a l'impression d'aller dans les grottes. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, hein, parce que c'est très drôle tout ce qu'on peut y trouver comme trésor. Mais du coup, voilà, quand c'est pour nous, on a une tolérance, parce que derrière, il y a toujours une émotion qui est là sur la pièce. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est sur de la vaisselle récente. Non, nous aussi, on n'est pas adepte des fêles et de la vaisselle ébréchée, parce que non, là, ça ne fait pas rêver.
Quand vous chinez, vous vous contentez de la Gironde ou de la Nouvelle-Aquitaine, ou vous allez beaucoup plus loin?
Non, clairement, on chine un peu partout. On a la chance d'avoir des familles qui ne sont pas forcément sur la région, hein. Donc les vacances se transforment en recherche assidue, hein, de pièces. Moi, en ce qui me concerne, je pense que je peux le dire, je suis la plus grosse chineuse de nous deux. Donc moi, je m'attelle pas mal les week-ends, pendant les vacances, j'essaie toujours de trouver des spots, des endroits, voilà. On mobilise aussi parfois nos maris, nos familles, pour aller récupérer des pièces à gauche ou à droite. C'est un travail de tout le temps. On s'envoie pas plus tard qu'hier soir, hein, je sais pas jusqu'à quelle heure, on s'est encore envoyé des messages. Oh, regarde ces pièces, oh là là, ça c'est super, est-ce qu'on peut faire tout ça? Donc oui, on chine vraiment partout.
Après, l'idée, effectivement, comme disait Delphine, c'est de passer ou par de la famille ou par des amis, pour que ça reste aussi logique avec notre démarche. C'est-à-dire que nous ne nous déplacerons pas dans le nord de la France pour aller chercher spécifiquement un service, parce que c'est contre nos valeurs, puisqu'on est quand même sur, on essaie au maximum de limiter notre impact sur l'environnement. Donc du coup, on va le jumeler ou avec des vacances, ou avec de la famille, effectivement, qui va récupérer, qui va venir passer des vacances chez nous, ou sur un couplet avec un déplacement qui a aussi un autre but derrière.
Quand vous chinez, c'est quoi qui est le plus dur à trouver? C'est plutôt les assiettes, les verres ou les couverts? Moi, personnellement, je trouve que le plus compliqué, ce sont les couverts. Mais vous, en tant qu'experte, c'est quoi?
Non, en fait, avec plus le temps passe... plus les éléments, de manière générale, tous, sont plus difficiles à trouver. Parce qu'il y a eu un regain aussi par rapport à quand nous, on a commencé à chiner des pièces. On a véritablement commencé à chiner des pièces en 2017. Donc, quand on a ouvert Bontemps, on avait déjà 3 ans de Chine derrière nous. Donc, c'est de plus en plus difficile de trouver des pièces. Et d'ailleurs, c'est logique, hein, puisque ça va avec les tendances, voilà, etc. On devient aussi plus sélective. Plus exigeante, donc forcément ça change aussi notre manière d'aller trouver de nouvelles pièces. au final, tout est un peu difficile maintenant à trouver. Je pense lié aussi à notre exigence. Il est hors de question de louer un verre en cristal qui est une ébréchure. C'est inconcevable. Il est hors de question que nos clients et leurs convives se coupent la lèvre sur un moment qui est agréable. Et au même titre que c'est comme pour les assiettes ébréchées, c'est pas possible. Donc non, tout est difficile. L'argenterie est assez difficile à trouver. Parce que en plus c'est un vrai budget, c'est onéreux. Hein. Donc quand on chine de l'argenterie, on chine vraiment des pièces qui sont très très belles, qui ont vraiment des détails et du travail, qui ont un poids, qui ont un certain sertissage, etc. Donc de plus en plus, tout est difficile à trouver.
Et au niveau entretien, pour les gens qui aiment acheter de la vaisselle ancienne, vous conseillez quoi, hormis le fait d'éviter le lave-vaisselle qui semble une évidence ?
Alors bien sûr, il y a principalement pour la porcelaine, tout ce qui est dorure. On évite complètement le lave-vaisselle parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, la dorure partira. Il faut savoir bichonner effectivement ces pièces-là. L'argenterie passe facilement au lave-vaisselle. Ça, c'est pas une problématique. Pour les verres, c'est pareil, on va éviter la vaisselle parce qu'au bout d'un moment, ça fait des traces, hein, le calcaire, et du coup, il est impossible de revenir en arrière. Donc, oui, le meilleur moyen pour garder ces pièces intactes, ça reste un lavage à la main avec des produits qui ne sont pas agressifs, hein, des produits le plus naturel possible. Et il ne faut pas oublier que les pièces qu'on chine et qu'on loue aujourd'hui, ce sont des petites œuvres d'art. Donc ça ne viendrait à l'idée de personne, a priori, de passer un tableau au lave-vaisselle ou à l'éponge. Donc du coup, il faut rester avec ce respect-là pour ces pièces-là, pour qu'elles perdurent le plus longtemps possible.
Alors une fois que la vaisselle est mise en place, a été utilisée pour récupérer tout ça, c'est quoi la logistique ? Est-ce que c'est le traiteur qui s'en occupe ? Est-ce que vous mettez à disposition des choses ? Ça se passe comment ?
Alors, nos clients, ils ont deux options. La première, c'est le lavage est effectué par nos soins. Donc, ils nous ramènent les pièces débarrassées dans les caisses. On a un rangement spécifique, donc on leur présente systématiquement comment se fait le rangement pour ne pas abîmer les pièces. Et ils ont la possibilité, éventuellement, de laver eux-mêmes à la main. Voilà, donc il y a des documents à remplir pour éviter de fragiliser les pièces. Évidemment, on ne les passe pas au lave-vaisselle, hein, ce qui paraît être essentiel. Après, sur l'entretien, sur la logistique, pardon. C'était la logistique. Sur la logistique, non, la plupart du temps, on effectue le lavage et c'est bien normal. Quand on passe une belle journée, on n'a pas envie de se transformer en cendrillon dès le lendemain. Donc nous, on effectue tout le rangement, tout le nettoyage. On va sur place récupérer. Non, les gens peuvent nous ramener aussi directement ici. Mais on a des caisses. Et puis après, en termes d'hygiène, il y a des normes, hein, qui sont à respecter. Donc, on doit nettoyer les caisses d'une certaine manière, entretenir l'argenterie d'une certaine manière, tout ce qui est verrerie, etc., etc. Donc, soit les gens peuvent retirer directement les caisses ici, gratuitement, soit on livre sur place et on fait le retour sur place aussi.
Bon, alors, on a vu beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose d'autre ?
Non, je pense qu'on a parlé un peu de tout. Voilà.
Ah oui, mais c'est pas grave. Non, on espère que de plus en plus de gens vont nous solliciter et puis vont apprendre à connaître ce qu'on fait.
Mais au niveau des stocks, quand même, il y a des limites.
Oui, alors nous, on est sur de la limite qui est très très haute quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas compté, là, mais ce sera fait dans peu de temps, mais on n'est vraiment pas loin où on a dépassé peut-être les 18 000 pièces.
Oui,
c'est...
Et dans les 18 000, vous comptez...
Alors, on compte tout, hein, mais en assiette, déjà, c'est... Ah oui. Je suis incapable de dire, mais peut-être 5 000 pièces en assiette. Je crois qu'on est à plus même.
Mais je ne sais pas si déjà, l'année dernière, on n'était pas à 8 000.
Ouais,
donc voilà. Non, c'est... En fait, non, je pense qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite.
Non, mais clairement,
dans le stock.
Je crois... que nous avons, et c'est pas du tout un manque d'humilité, mais je crois que nous avons sûrement, certainement, la plus grande collection de vaisselle française ancienne. Et ça, c'est important de le préciser.
Hein. Ah, parce que c'est toujours de la vaisselle française ? Ce
n'est que de la vaisselle française. À trois exceptions près de quelques pièces qui sont anglaises, mais parce que soit c'est quelqu'un qui a été formé en France, etc. Donc, sur de la vaisselle française ancienne, c'est quasiment sûr, on a la plus grande collection de Nouvelle-Aquitaine. Et peut-être, on n'a pas cette prétention, mais peut-être de France, peut-être.
Mais il y a beaucoup de loueurs de vaisselle ancienne comme ça sur la France ?
En tout cas, notre niveau de collection, non. On a des confrères et des consoeurs qui font de la location de vaisselle. Sur la région, on a une consoeur qui est sur Toulouse. Voilà. Après, c'est plutôt dans le Rhône, sur Paris ou la Bretagne. On les situe à peu près tous. En tout cas, ici, nous sommes les seuls. Et les seuls avec un tel volume et autant de collections.
D'ailleurs, c'est quoi qui vous a fait penser à nommer les collections comme ça ?
En fait, on travaillait déjà comme ça. Moi, quand je créais les collections, on avait des thématiques, en fait, qui correspondaient qui correspondaient à des tendances, à des armoires de vêtements. Et du coup, c'est tellement naturel de faire ça avec de la vaisselle. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur les collections, parce que c'est logique. Et puis, parce que ce que nous avons, c'est une collection avant tout. C'est-à-dire, les pièces que l'on chine sont des pièces qui ne sont plus refabriquées, qui sont uniques. Donc, on reste dans de la collection d'art de la table.
Vous avez combien de collections aujourd'hui ?
Je crois qu'on a 9. Oui, parce que.
Oui, il y a plusieurs gammes couleurs dans le. Alors, il y a dans le terre de fer, on a le pourpre de cassius, le bleu de cobalt, le vert céladon, le brun de cassel, un peu de noir de vigne et le polychrome. Donc, on est à 6 déjà. Ensuite, on a les collections rétro. On a les collections porcelaine dorée. On a les collections porcelaine bucolique. On a la collection mosaïque, les collections barbotines, les collections grès. Est-ce qu'il m'en manque une ? Non, je crois pas.
Non, il y a le petit 70.
Ouais, et le petit 70 qui commence à émerger tranquillement. Donc voilà. Mais après, ce qui est super, c'est qu'on peut mixer. Donc, dans les terres de fer, on peut mixer toutes les couleurs ensemble, mais on peut très bien mixer du terre de fer avec de la collection porcelaine dorée. Et on a la collection blanche aussi, qui est une collection plus simple. Pour l'instant, on l'a beaucoup sorti pour des repas d'entreprise où les gens ont envie d'avoir des pièces un peu sympas et différenciantes, mais à un prix qui reste aussi plus abordable. Donc, on a répondu à cette demande et on a eu des entreprises qui étaient très, très contentes de manger dans des pièces anciennes. Ça leur a fait très plaisir.
C'est quoi le budget moyen qu'il faut compter par personne pour faire la location de vaisselle ?
Alors, sur les formules, oui, on a des prix qui vont de 3 euros la formule par personne et qui peuvent monter jusqu'à 14 euros avec des options supplémentaires. On n'a pas de prix véritable parce qu'on essaye... Alors, si, il y a un panier moyen, mais là, ce n'est pas un sujet parce que, en fait, on s'adapte vraiment aux aspirations de nos clients et on essaie toujours de trouver la meilleure allocation. Et c'est ce qu'on disait au début. Pour nous, il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de gros clients. Il n'y a que des clients et il n'y a que 100% de satisfaction à la finalité.
C'est quand même pas très cher. Bon, après, je suppose qu'il y a quand même le prix de toute la logistique qui se rajoute, le transport, etc.
Alors non, mais ça reste une enveloppe pour nos clients, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est aussi ce qu'on explique. Une jolie table, c'est très vite un effet « waouh ». Et ça meuble et ça fait aussi un élément de déco vraiment important. Donc je ne dirais pas que le budget il n'est pas important. C'est vrai que c'est pas que ce soit un sujet tabou, mais que vous fassiez une location sur, par exemple, du bucolique, en fonction de l'univers que vous allez créer, ça va être superbe. Et sur des pièces un peu plus onéreuses, avec une grosse formule en terre de fer, en fonction de l'ambiance que vous allez donner, ça va aussi être un effet waouh. Donc voilà, et vu qu'on sort à peu près toutes les collections, c'est des ambiances différentes.
Non, mais c'est vrai que quand on est invité chez quelqu'un, en général, la table est déjà dressée et le regard se porte tout de suite sur la vaisselle et c'est quand même hyper, hyper important.
Tout à fait. Et c'est cette table bien dressée, ça veut dire que vous êtes le bienvenu. Donc, en théorie, quand on va manger quelque part, on aime bien être le bienvenu. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc, du coup, c'est toujours plaisant d'avoir une jolie table qui est bien, bien dressée. Et avec notre fameuse vaisselle ancienne, c'est vrai que comme les motifs vont être différents d'une personne à l'autre, on a une attention finalement pour chaque personne. Et du coup, c'est le vrai coup de cœur pour les yeux. Et chacun est touché, car forcément vous laissez un souvenir qui restera très certainement ancré à tous vos invités.
C'est aussi lors des événements un moment de partage, d'échange et de début d'histoire. Ah, et toi, t'as quoi comme motif? C'est différent. Oh, regarde, et moi, j'ai des oiseaux. Ah, mais moi, j'ai des fleurs. Oh, si on met à côté, c'est joli. Et alors, c'est vrai, je pense à un couple en particulier, mais on en a eu plusieurs comme ça, où c'est des gens qu'on a reçus, on fait de la prestation, et puis quand on discute avec eux, des fois, ils ont un coup de cœur sur des pièces. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on se note. Et donc, quand on va dresser la table, on a vraiment une attention pour eux et on met des pièces sur lesquelles ils ont eu le coup de cœur pour eux. Et souvent, ça marque parce qu'on a souvent des retours en disant « Oh là là, mais vous y aviez pensé ?» Évidemment, qu'on a pensé à vous, c'est votre jour. Donc, bien sûr qu'on a pensé à vous et qu'on a fait en sorte que vous soyez particulièrement contents. Hein.
Oui, et la meilleure récompense, je pense, au final qu'on ait, c'est quand on a des témoignages de mariés qui nous disent « Voilà, je vous ai laissé faire, vous avez fait la scénographie, je ne savais pas comment ça allait être quand j'allais rentrer dans la salle. Je suis rentrée en premier dans la salle, j'ai regardé la table et j'ai eu les larmes aux yeux. » Tellement bouleversée par l'émotion que ça lui a procuré. Et du coup, quand on a ça,
on a les larmes aux yeux.
Voilà. Ça nous met les frissons.
Du coup, quand on a ce genre de retour, on sait pourquoi on fait ça. On se dit, c'est un encouragement pour continuer à le faire et à le faire bien, à ne jamais relâcher, alors je ne vais pas dire la pression, mais à ne jamais relâcher l'attention et les intentions. Voilà. Parce que les mots sont beaux. Mm-hmm. Donc ça, c'est notre plus belle récompense. Hein.
Mais c'est vrai que moi, par exemple, le lundi, quand je fais des enquêtes de satisfaction suite à nos anniversaires, très souvent, j'en ai les larmes aux yeux. C'est vrai que la reconnaissance client, c'est quelque chose d'hyper important. C'est vrai que quand les gens disent qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai boulot derrière, peu de gens le disent. Donc c'est vrai que c'est toujours très, très touchant.
Mais je pense qu'on est très sincère, nous, dans notre démarche, quand on fait les préparations de commandes pour les clients, quand on les reçoit, quand on les écoute, etc., essayer de capter ce dont ils ont envie, que forcément la bienveillance, ça se ressent. Et ça se ressent dans les deux sens. Et du coup, c'est des coups de cœur qu'on peut avoir avec effectivement des clients, des couples, parce qu'il s'est aussi passé quelque chose hors de la table et juste dans le relationnel entre nous, parce qu'on a été connectés et on a été sur cette même vibration, même longueur d'onde, et que du coup, on les a touchés de par ce qu'on a fait, et eux, ils nous touchent parce que justement, ils ont capté tout ce qu'on avait pu faire pour eux.
Vous parlez très souvent de couple, ça veut dire que c'est très souvent à deux qui viennent vous rencontrer, c'est pas uniquement la mariée ?
Ils viennent très souvent à deux. Alors des fois, finalement, ils ont chacun des envies différentes. Donc on essaie aussi d'accorder la chose pour qu'au final, les deux soient satisfaits, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit frustré. Ça, c'est très, très important. Parce que si on commence un mariage sur la frustration... On sait que c'est pas très prometteur. Et après, on peut avoir aussi des messieurs qui viennent seuls ou des femmes qui viennent seules. Des fois, c'est des mamans, des mamies aussi qui sont accompagnantes. Mais c'est vrai qu'on a souvent des rendez-vous de couple.
C'est bien.
Ouais, c'est très bien.
Que
ah ouais.
Les deux sont totalement concernés par la table. Après, oui. C'est vrai que c'est un moment essentiel. Ouais.
Alors, c'est un moment essentiel. Ça fait vraiment partie de l'ambiance qui est créée, et en particulier quand il y a des thématiques de mariage. Mais on se rend compte, et je crois qu'on peut le dire aussi respectivement avec nos maris, que finalement, ils apprécient aussi grandement d'avoir des belles tables, d'avoir de la jolie vaisselle. Moi, des fois, mon mari, il me dit. Ah, ben finalement, je préférais que tu mettes du rose. Ah non, mais ce soir, non, fais-nous plutôt une table verte. Ah bon, d'accord. Et au final, oui, je crois qu'ils ont vraiment aussi une appétence. Ils osent le dire. On est sur des générations aussi, on a des hommes qui sont plus sensibilisés à la mode, à l'esthétisme, à l'entretien de soi, à la décoration, etc. C'est moins tabou qu'il y a encore quelques années. Et je crois qu'ils ont envie que ça fasse vraiment partie des éléments clés. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est quand vous avez des couples qui viennent chez nous, ce sont forcément des gens qui ont une sensibilité et qui ont envie, et je vais reprendre ce que Stéphane a dit au départ, mais de bien recevoir et de faire plaisir aux personnes, aux convives qu'ils ont invités pour ce moment de témoignage, d'amour, etc. En particulier quand c'est un mariage, même quand c'est un baptême ou autre chose.
Bon, voisine.
Merci beaucoup.
Merci à vous parce que c'était vraiment un vrai plaisir. Et j'espère que les gens qui écouteront le podcast apprécieront le côté naturel de notre interview.